journal avec Bernadette Chamonnaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Une saison sèche et noire pour les guides culturels à la recherche désespérée du touriste. La clientèle étrangère fait cruellement défaut. Reportage. Ils ont payé au prix fort leur lutte pour l'environnement. 212 militants écologistes tués l'an dernier, particulièrement meurtrière, la Colombie. Nous y serons. Enfin, nous irons au festival de Nice où jazz et classique s'entremêlent torrides.
Et puis nos invités pour le grand entretien tout à l'heure. Jean-Pierre Mas, le président des entreprises du voyage, et Thomas Apchin, anthropologue. Il étudie les pratiques touristiques. Le touriste aux abonnés absents cette année dans les grandes villes. Il préfère la campagne à la ville. Il va quand même à la mer mais porte un masque. On en parle donc avec eux à 8h20.
France Inter.
Ils sont à la croisée de deux univers, le tourisme et la culture, deux secteurs que le virus a frappé de plein fouet. Des milliers de guides sont aujourd'hui au chômage, quelques rares visites ont repris, mais sans pouvoir les faire vivre encore. Jean-François Fernandez.
Cédric Blot dirige l'agence Guide Tourisme Service à Fontainebleau, qui travaille avec environ 40 guides à l'année. Depuis le déconfinement, il n'a pas vu son activité reprendre.
On essaye toujours, bien entendu, d'amener les gens sur le terrain, parce que c'est quand même nos métiers, mais pour autant, les gens, pour le moment, on voit bien qu'ils n'ont pas véritablement envie de se mêler à la foule.
Plusieurs milliers de guides en France sont donc touchés. Les aides de l'État ne suffisent pas. Les guides ont besoin de touristes pour vivre.
C'est-à-dire qu'on espérait naïvement que oh là là, les Français allaient rester en France, à essayer de valoriser le patrimoine en se disant bah, écoutez, voilà, soyons solidaires de toutes nos professions. La culture, c'est quand même un des rares sujets qui devrait nous rassembler en France. La réalité, c'est qu'on ne sait pas du tout où on va. Donc globalement, on touche effectivement cette aide de 1500 euros. Mais il y a par exemple les guides qui étaient salariés qui arrivent en fin de droit qui, eux, ne touchent strictement rien. Ils n'ont plus de droit au chômage. Je pense pour 90% de la profession, on touche cette aide. Mais hier, j'étais avec des guides qui me disaient que voilà, bah, y en a qui travaillent dans des restaurants, ils sont obligés d'aller bosser ailleurs parce que la réalité, c'est que pour ceux qui travaillent à Paris, par exemple, et qui habitent à Paris, bah, leurs charges n'ont pas baissé.
Et il n'y a pour le moment pas de visibilité sur une reprise, en tout cas pas avant 2021.
Et le tourisme après la tourmente sera-t-il toujours le même? On en reparle avec vos invités à 8h20. Ce sera l'un des secteurs du plan de relance de 100 milliards d'euros que présentera le gouvernement le 25 août. Trop tard, critique dans le journal du dimanche le porte-parole du PS, Boris Vallaud. L'exclusion doit être selon lui une priorité. Il s'étonne que le secrétariat d'État qui s'y consacre est disparu du nouveau gouvernement. C'est la première fois que la Direction Générale de la Santé utilise cette expression « le virus circule de façon soutenue en France ». Pas d'alarmisme, mais elle insiste, il va falloir casser vite cette dynamique. Le taux d'incidence, 10 personnes contaminées sur 100 000, est passé au-dessus du seuil de vigilance. De plus en plus de villes rendent le port du masque obligatoire à l'extérieur sur des zones de plus en plus vastes. Dès demain, dans le département du Nord, ou encore en Mayenne, où l'obligation va concerner désormais 69 communes. À Cray, dans la Drôme, un adolescent est mort, tué par un arbre tombé sur sa mobylette, alors qu'un violent orage s'abattait sur le département. Plus d'alerte aux orages, mais la Drôme, comme l'Ardèche, reste en vigilance orange canicule. Chaleur plus vent, les pompiers restent sur place à Saint-Marcel. Les Annonay en Ardèche, où 70 hectares de pins ont brûlé. Le feu est maîtrisé, mais le risque de reprise est très élevé. Au Brésil, les pharaons constatent des ONG. L'Amazonie brûle plus que jamais. Les incendies ont augmenté de 30% par rapport à juillet 2019. Des incendies provoqués volontairement pour les cultures et les luttes écologistes se heurtent au pouvoir qui encourage la déforestation.
Des militants pour l'environnement qui parfois paient leur vie, leur engagement.
L'an dernier, 4 militants tombaient assassinés chaque semaine, 212 morts en 2019. Bilan effarant, dressé par l'ONG britannique Global Witness. Deux pays sont particulièrement dangereux, les Philippines et la Colombie, où nous allons avec Najed Benrabah.
Au cœur de la forêt tropicale, la ville d'Apartado. Une ville de près de 200 000 habitants où l'activité économique la plus importante est la production de bananes et de bananes plantains. Les rues semblent calmes. Pourtant, la violence contre les militants environnementaux y est régulière. Aginette Pérez dirige Tierra y Paz, c'est-à-dire Terre et Paix, une association de lutte pour les terres de sa ville.
Dès 1999, nous avons dû fuir nos terres et 21 personnes ont été tuées pour avoir voulu protéger leurs terres. Moi-même, je reçois des menaces de mort. J'en ai reçu en décembre et il y a aussi 8 jours parce que j'ai participé à une réunion de la ville. Les menaces de mort ne cessent pas.
Apartado se trouve dans une zone stratégique près de la frontière panaméenne, une route très utilisée par les trafiquants et les groupes armés. Yezid Zapata, de la fondation Sumapaz, qui lutte pour la protection des militants.
On ne les tue pas uniquement à cause de la production de coca, c'est aussi à cause des gros projets miniers qui ont été freinés par les actions des militants. Ils les tuent et les chassent de leurs terres pour pouvoir ensuite exploiter la terre comme ils le désirent.
L'an dernier, 2/3 des assassinats de militants environnementaux ont été perpétrés en Amérique latine. Najat Ben Rabah, Medellin, France Inter.
Après avoir déversé des pluies torrentielles sur les Bahamas, l'ouragan Isaias se dirige vers la Floride où les services d'urgence des hôpitaux sont en alerte alors que l'État est déjà durement frappé par l'épidémie de Covid-19. On surveille aussi au large de la Floride l'amérissage des deux astronautes qui rentrent de la Station Spatiale Internationale. Jusqu'ici, tout va bien. Leur capsule SpaceX s'est détachée normalement de l'ISS. D'autres auteurs maintenant, celle de Nice, des notes de piano à l'ombre de la Villa Matisse. Cette année, le Festival Nice Classique métisse les musiques dès la soirée d'ouverture où vous étiez, Stéphane Capron.
Pour la soirée d'ouverture, la pianiste Marie-Joseph Jude, la directrice artistique du festival, a choisi de surprendre le public venu écouter du Beethoven, puis du Philip Glass. Au beau milieu de la pièce Métamorphosis, il a été réveillé par de l'électro. Marie-Joseph Jude a passé commande de ce remix au musicien Azan Caro pour l'accompagner au piano.
J'étais prise dans l'élan et dans l'énergie en fait. C'est vraiment un truc d'énergie collective et je me suis retrouvée mais décollant. Décollant de mon siège, décollant du tabouret, c'est extraordinaire.
Marie-Joseph Jude veut réunir tous les styles de musique dans son festival. Elle renoue avec la grande tradition du jazz à Nice, à deux pas des arènes de Simiez, lieu mythique de la grande parade du jazz dans les années 70, là où le niçois Pierre Bertrand a eu son premier choc musical.
C'est ici qu'en 77, j'avais 5 ans, j'ai eu l'envie d'être musicien. C'était tout d'abord professeur Longhair, qui était un pianiste de la Nouvelle-Orléans, qui jouait un blues assez génial. Et derrière, il y avait le grand orchestre de Cantbézy. Dans 5 ans, après, on n'oublie jamais ça.
Pierre Bertrand a également ouvert le Nice Classic Live avec son jazz teinté de musique orientale.
Voilà, et moi aussi, figurez-vous, je m'envole sur des notes de musique.
Merci Bernadette Chamonaz. Et justement, vous vous envolez, ne partez pas tout de suite quand même, Bernadette. Écoutez.
À force d'entendre parler de bouchons, il y en a qui préfèrent faire de l'autostop. Je ne sais pas s'ils ont attendu longtemps, mais les automobilistes, eux, n'ont pas trop souffert des embouteillages.
Vous reconnaissez Bernadette ?
Oui.
C'était vous le premier route, le 1er août 79, un de vos premiers journaux sur France 3 à Grenoble. Oui. Si on parle de vous...
Non, à Lyon.
Ah bah écoutez, nous on a trouvé Grenoble en même temps, bon peu importe.
C'est pas grave.
Si on parle de vous ce matin, c'est parce que c'était votre dernier journal sur France Inter. Vous nous quittez pour de longues vacances et une belle retraite. Alors vous avez commencé à France 3 en région, vous avez intégré Radio France à Lyon et vous arrivez à France Inter en septembre 89.
Vous écoutez Intermatin samedi, il est 7h30. Les informations nous sont présentées par Bernadette Chamonaz.
Regrettable, c'est le terme employé par Jean-Marie Le Pen pour qualifier les propos antisémites de Claude Autant-Lara, mais il accuse le mensuel Globe de chercher le scandale pour faire de l'argent.
La matinale d'Inter, vous allez y faire toute votre carrière, Bernadette, chapeau. Un rédacteur en chef m'a dit un jour, si tu veux devenir présentatrice, écoute Decamps et Chamonaz. Alors j'ai demandé donc à Yves Decamps et à d'autres ce que cela voulait dire.
Pour moi, c'est une plume, un style, un caractère. Elle a une façon bien à elle, originale, de présenter l'information, avec toujours un titre très accrocheur, une formule qui fait mouche.
Football, le soldat Deschamps réussit son baptême du feu. Vous l'entendez, le coq chanter, le jour se lève sur une France en bleu, après une nuit blanche, des Champs-Élysées au traître, des banlieues au Festival d'Avignon. Mon nom est Gone, Carlos Gone, une opération à la James Bond, Billie Jean, le moonwalk, marche lunaire, marche funèbre, Michael Jackson. La danse désormais au ciel.
Coucou Bernadette, c'est Laurence Thomas. Alors Bernadette, c'est l'exigence. La conviction, le doute, le trac, comme au premier jour. Elle n'est jamais contente d'elle-même. Bernadette, c'est aussi un modèle de rigueur professionnelle, d'honnêteté intellectuelle.
Ton masque, ses tu porteras, amis. Ton masque, tu payeras. Pas aux contribuables de payer la mise au point d'Emmanuel Macron. Le lait de la colère, des millions de litres de lait déversés en France. L'Europe chahutée, l'Europe bousculée, mais l'Europe libérée. L'accord sur le plan de relance arraché après 4 jours de turbulences.
Toujours précise, toujours exigeante. Voilà, c'est une excellente présentatrice et une super collègue. Je lui souhaite en tout cas une très très bonne retraite.
Bernadette Chamonnaz, une consoeur qui va me manquer, mais qui est évidemment une amie pour toujours.
Bernadette. Oui, ce sont des amis, effectivement, mais beaucoup ici dans la rédaction sont des amis pour moi.
Attendez, c'est pas fini. Vous avez un sacré prénom, Bernadette, qui inspire les plus grands poètes de la rédaction, dont un certain rédacteur en chef, Michael Thébault.
Ah, Bernadette, ma radette, parfois secrète, parfois pipelette, casse-roupette, oui. Oh. Mais point de voix fluette, des accents de trompette, toujours parfaite et surtout, surtout, jamais désuète.
Je ne lui connaissais pas ce talent de poète.
Voilà Bernadette, au nom de la rédaction, je vous dis merci, que votre retraite soit belle, faite d'écriture. Je sais que vous êtes passionnée de théâtre et de piano. Vous vouliez-vous ajouter, Bernadette ?
Oui, je voulais dire au revoir d'abord aux auditeurs. Merci. Alors, on vient de l'entendre, hein, je suis là depuis si longtemps, je suis arrivée à France Inter. Il y avait encore des téléphones à cadran, il y avait encore le mur de Berlin et on roulait sans vignette critère. C'est vous dire la préhistoire. Bon, mais merci d'abord aux auditeurs pour cette longue conversation sur le monde. Je choisis ce mot, conversation, car c'est vraiment un échange, je pense, que l'on a sur cette radio avec les auditeurs. Parce que ne croyez pas qu'on ne vous entend pas, hein, les auditeurs, derrière votre poste. On vous entend penser, sourire, tempêter, vibrer. Et c'est un incroyable cadeau que vous nous faites, que j'ai reçu moi personnellement. Merci. Alors je voulais dire merci aussi aux collègues, mes compagnons du service public. Je sais que c'est important, le service public, pour nous tous ici, journalistes, techniciens, assistants. Alors je peux pas citer tout le monde. Si, je peux citer tout le monde. Non, j'ai le temps. Non, pas tant. Bon. Alors je vais citer une personne que j'ai choisie parce que je trouve qu'elle nous représente tous. Elle n'est pas en vitrine, comme on dit. On ne l'entend pas, mais elle est un pilier de cette rédaction. C'est Corinne Souillet, assistante à la direction de la rédac. Et alors, je sais qu'ici, on l'appelle tous Coco, et j'arrête tout de suite les mauvais esprits. Hein. La rédaction d'Inter n'est pas infiltrée par les cocos. Non, si Corinne symbolise France Inter, c'est pour son engagement de cœur chaque jour pour cette radio qu'on aime tant tous ici. Et puis, pour terminer, bah tiens, j'ai envie de piquer une formule, comme ça sera plus facile, d'une publicité qu'on entend en ce moment sur l'antenne pour des croisières. France Inter, c'est l'assurance d'un voyage à la fois authentique et raffiné. Eh bien moi, je serai toujours embarquée avec vous.
Merci Bernadette.
Merci.
J'ai le droit de vous dire que je vous aime.
Et moi aussi, je vous aime.
Je vous aime très fort. Allez, après toutes ces émotions, c'est pas le tout, mais le 6-9 continue.